À certains de ces nationalismes d'Europe centrale, on avait mis fin au seul empire fédéral qui avait une idée fédéraliste, l'empire austro-hongrois. On ne sait pas, et on ne le dit toujours pas, que dans l'administration monarchique de l'empire d'Autriche-Hongrie, il y avait des contingents divers, de divers peuples dans l'armée. Et un officier de l'armée autrichienne, de l'armée impériale autrichienne, devait parler la langue de ses soldats. Et ça, on ne l'a jamais dit, on n'a jamais voulu l'avouer. Mais comme cet État était à la fois une monarchie et un État catholique, il y a évidemment eu ici, et dans d'autres points de l'Europe, des forces idéologiques qui voulaient la destruction de cet État, de cet empire fédéral, pour le remplacer par des formations étatiques qui seraient toutes, à peu près, bâties sur le modèle français. Et c'est ce qui m'a amené, petit à petit, à la conception d'une Europe qui ne serait pas celle des États, ou pas seulement celle des États, mais qui serait aussi celle des peuples, et des peuples, pas des États, des nations vraies, des communautés de base de l'Europe, et non pas de ces formations nouvelles historiques qui n'avaient au plus, c'était la France qui était la plus vieille, qui n'avait que 2 siècles d'existence, même pas 1,5 siècle d'existence. Car la vraie Europe, ça n'est pas l'Europe des États. Les États, nations telles que nous les connaissons, ce n'est qu'un accident dans l'histoire. Ce qui est vrai, c'est l'Europe qui existe à la base. Nos nations, la Bretagne, nos nations, le Pays Basque, la Catalogne, la Corse, la Tchéquie, la Slovaquie, la Croatie, tout cela c'est la vraie Europe. Ce ne sont pas des formations étatiques qui voulaient tout centraliser. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un peuple, une nation, un chef. Les Français disent un peuple. Une nation, une langue, un État. Et c'est donc cette conception qui a, si vous voulez, donné naissance à mon livre dont vous a parlé tout à l'heure Éric Rouen, L'Europe sans drapeau. Ce livre a eu d'ailleurs peut-être plus de rayonnement en dehors de la Bretagne. Parce qu'en Bretagne, il y a toujours, en ce qui me concerne, une espèce de point d'interrogation. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en Irlande mais qui n'auraient pas l'idée de venir me voir en Bretagne. Je sais, c'est humain peut-être, mais je ne suis pas très fréquentable, paraît-il. Ça ne m'a jamais gêné beaucoup, mais enfin quand même, ça existe. Et c'est pour ça que parmi nos amis européens, beaucoup ont lu et ont apprécié l'Europe sans drapeau, peut-être plus que ne l'ont fait certains des militants bretons qui ont toujours l'arrière-pensée de dire ben c'est foiré, attention. Ben voilà, si vous voulez, nous en sommes encore là, parce que l'Europe, malgré tout, c'est pour nous une chance, en ce sens que c'est une formation pragmatique, qui se bâtit peu à peu, mais qui inévitablement se bâtira sur des réalités, et les réalités à l'heure actuelle, ce n'est pas seulement les États, ce sont les régions, ce sont les peuples. Et l'Europe des peuples se confond pratiquement avec l'Europe des régions. C'est pour ça que j'ai appelé le livre « L'Europe sans drapeau », car les drapeaux des États ne sont pas suffisants dans l'Europe de demain. On me dit, bien sûr, c'est une formation, c'est une très belle idée, mais c'est un peu utopique. Mais je réponds, oui, mais attendez un peu. Et il n'y a pas si longtemps, je vous cite simplement un extrait d'un discours de M. Delors, ancien ministre des Finances français, présidentiable à la République, mais qui dirige actuellement la communauté européenne à Bruxelles, les 12, la communauté des 12, et qui s'exprime ainsi La communauté n'existera vraiment que si les États nationaux permettent à leur région de dialoguer sans entrave avec l'exécutif fédéral que doit devenir tôt ou tard la Commission de Bruxelles. On s'oriente à l'heure actuelle, petit à petit et pragmatiquement, comme le désiraient d'ailleurs les fondateurs de la communauté européenne, à la fois le chancelier Adenauer et le Lorrain Robert Schuman, vers une communauté qui petit à petit adopte et adoptera des structures fédérales. Mais c'est là où nous devons, nous, peuple de l'Europe, intervenir. Ce ne sont pas les États historiques qui doivent construire cette Europe. Ce sont les réalités de base du continent, les communautés naturelles dont nous faisons partie et dont nous sommes les représentants. Cette vocation fédérale de l'Europe ne peut, à mon sens, que s'affirmer, et elles sont un modèle pour les Bretons. Lorsque la communauté européenne s'est fondée, il y avait surtout des États historiques et centraliste, à part l'Allemagne et l'Italie. Pourquoi? Parce que ces deux États avaient été vaincus et que dans leur naïveté, les dirigeants français et peut-être d'autres États pensaient affaiblir en les dotant d'un régime fédéral. Or, cela a fait leur puissance, leur force et leur force d'attraction. Eh bien, la France n'a pas encore réalisé cette mutation. Elle est en retard. Mais c'est dans ce sens-là aussi que les Bretons doivent travailler, car la construction d'une Europe des peuples et des régions est un complément et une finition pour leur lutte personnelle qui doit subsister et qui doit continuer à agir contre vents et marées, pourrais-je m'expliquer. Car les vents et les marées ne manquent pas. Et nous avons aussi des modèles. Bon, malheureusement, ici encore, la France est en retard. Je voudrais vous lire quelques passages de Constitution. C'est un peu mon métier, puisque je suis un peu constitutionnaliste, si vous voulez. Eh bien, la France est évidemment, vous le savez bien, régie par la Constitution de 1958, car la France change aussi souvent de Constitution qu'elle ne change de gouvernement, ou qu'on ne veut changer d'ailleurs, le système électoral. Cela dépend bien sûr de chaque gouvernement qui cherche à en tirer parti au maximum. Eh bien, donc la dernière, parce que ce n'est probablement pas la dernière dans le temps, Constitution française, c'est la Constitution de 1958, qui dit que dans son article 1, que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. On ne parle pas de la langue, hein. D'origine, de race ou de religion. Il y a bien une disposition dans la Constitution qui parle du droit de la libre détermination des peuples. Mais ça ne s'applique qu'aux peuples dits d'outre-mer. Ça ne s'applique pas ailleurs. À la rigueur, on pourrait penser que la Guadeloupe ou la Martinique pourraient essayer d'avoir le droit de libre détermination. Mais ils sont des départements français. Pas. La Guadeloupe, l'Armédique, ça n'existe pas. Ce sont des départements français, la Réunion aussi. Donc, je ne crois pas que le droit de libre détermination même s'appliquerait même à eux. Il y a toutefois, dans l'article 55, le titre 6, un petit texte qui est intéressant et qui dit que les traités et les accords internationaux régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois. Cela n'a pas été adopté sans difficulté. Il n'y a pas tellement longtemps, le Conseil d'État refusait encore de reconnaître cette suprématie de la loi internationale sur la loi interne. Eh bien, si je dis que la France est en retard, c'est que dans les États qui forment actuellement la communauté, le plus important, l'Allemagne, est un État fédéral. C'est-à-dire que l'État allemand, la République fédérale allemande, en réalité, le pouvoir est concentré sur les matières pratiques d'administration, de finance, dans les Länder, c'est-à-dire des États par entier qui font partie de la République fédérale. Et la plupart des pouvoirs pratiques sont exercés par ces Länder et non pas, à part les affaires étrangères, la défense, etc., par l'État fédéral lui-même. Donc l'Allemagne s'était déjà orientée, bien que ce ne soit pas tellement elle qui soit responsable, déjà orientée vers la création d'un État véritablement fédéral. Et depuis, il y a eu aussi, parce que aussi encore une fois, l'Italie a été vaincue, enfin l'Italie c'est très compliqué, parce que quelqu'un a dit que les Italiens ne finissaient jamais la guerre du même côté, alors moi qui ai changé deux fois. Ah. Bon, mais en tout cas, le résultat est que l'Italie a aussi une constitution à base fédérale. Et la République italienne, qui est un des membres fondateurs des grands États de la communauté, se dit aussi, comme la France, une république une et indivisible. Hein? C'est inscrit dans la Constitution, article 5, mais la Constitution ajoute, elle reconnaît et favorise les autonomies locales. Elle adapte les principes et les méthodes de sa législation aux nécessités de l'autonomie et de la décentralisation. Il y a un article supplémentaire qui dit « La République protège par des mesures convenables les minorités linguistiques. » Eh bien, ça n'existe pas dans la Constitution française. Il y a donc là un argument que nous devons apporter à chaque fois que nous faisons de l'action politique internationale. Pourquoi est-ce que dans l'Europe de demain, certaines régions, certains peuples auraient droit, très normalement et légalement, à des libertés, à des pouvoirs que les autres peuples et les autres régions n'auront pas, hein? Donc, à l'heure actuelle, notre politique, si vous voulez, est d'essayer d'enserrer la France, l'État français, dans un réseau d'obligations internationales. Il y a bien sûr la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a aussi des textes autres qui limitent la compétence et les droits et les pouvoirs de l'État central, de l'État tout court. Il y a le Covenant sur les droits économiques et politiques. Il y a les conventions sur les droits de l'enfant. Il y a des quantités de textes qui, normalement, doivent s'appliquer à la France, comme ils s'appliquent aux autres États de la communauté européenne et parfois même du monde entier. Mais ici encore, la France traîne les pieds. Car chaque fois que nous avons affaire dans des conférences internationales ou dans des réunions internationales aux représentants de l'État français, ils sont en général de hauts fonctionnaires ou des diplomates chargés spécialement ce travail. La France dit, ah mais chez nous, non, il n'y a pas de minorité. Il n'y a pas de minorité linguistique. Tous les citoyens sont égaux devant la loi, hein, ils ont tous des droits égaux, et si on appliquait à certains des libertés comme les minorités des autres États, parce que nous n'en avons pas, je maintiens, nous n'en avons pas, eh bien, ça ferait une discrimination vis-à-vis des autres Français. C'est-à-dire qu'ils retournent l'argument dans le mauvais sens. Alors que, personnellement, et tous les Bretons, et tous les Corses, et tous les Alsaciens, et tous les Basques, disent, mais non, c'est pas vrai. si vous voulez appliquer les mêmes droits à tout le monde, il faut savoir si ce sont des droits uniformes ou si ce sont des droits égaux. Si ce sont des droits égaux, eh bien, il tombe sous le sens que ça ne peut pas être la même chose, il ne peut pas y avoir le même droit, l'application du même droit pour un Breton qui a une langue particulière ou pour un Corse qui a une langue différente. Il faut qu'il y ait des garanties pour ces minorités linguistiques qui existent en France comme elles existent ailleurs. Mais non, ça, jusqu'ici encore, les représentants du gouvernement français vous disent toujours « Ah non, ça ne s'applique pas à nous. Nous faisons une réserve sur cet article-là parce qu'on parle de minorité. Nous n'avons pas de minorité, ça n'existe pas. » C'est évidemment nier complètement un problème, résoudre le problème en le niant. Il n'y a pas de problème si on dit qu'il n'y en a pas. Évidemment. Alors voilà, il y a un obstacle là qui est à vaincre et qu'il faut que nous arrivions à vaincre. Et donc, ça ne peut se faire que par la multiplication de recours internationaux contre l'État français, dans certains cas. J'en ai moi-même introduit un. Je n'ai pas réussi d'ailleurs, parce que, pour des raisons autres, c'était un problème de droit personnel et public, et privé plutôt que public. Alors, voilà, si vous voulez, il y a deux aspects actuellement du combat. Évidemment, on ne donne pas à un peuple des libertés qu'il ne demande pas. On ne donne pas à une population des droits qui ne semblent pas l'intéresser puisqu'elle ne la demande pas. Bon, il y a une nécessité absolue pour les mouvements bretons, quels qu'ils soient politiques, culturels, économiques, sociaux et autres, d'affirmer leur particularisme, leur distinction, leur volonté que ces problèmes qu'ils exposent soient résolus. Ça, c'est la première chose. Et ceci dit, il ne faut jamais négliger d'appeler actuellement, avec une Europe qui petit à petit prend cette structure fédérale, il ne faut jamais négliger d'appeler à l'autorité supérieure et de forcer petit à petit la main à une administration qui ne veut pas entendre parler de la diversité qui est reconnue à d'autres peuples et à d'autres États. Depuis que la communauté européenne existe, non seulement l'Allemagne et l'Italie ont des régimes pré-fédéraux, si vous voulez, ou pré-régionalistes et pré-fédéraux. Les Italiens s'intitulent État à autonomie régionale, par exemple. Et depuis la mort de Franco, il y a aussi le passage de l'Espagne maintenant à ce système de gouvernement d'administration. En somme, le système des Länder allemands s'applique maintenant en Espagne. Il y a des communautés autonomes, basques, catalanes, andalouses. On a d'ailleurs assisté à des naissances de mouvements autonomistes et régionalistes en Espagne, alors qu'ils n'existaient pas avant, parce que justement on leur a donné la possibilité d'avoir les mêmes droits que d'autres populations du même État. J'avais jamais entendu parler de l'autonomisme andalou avant la création de l'Espagne plus ou moins fédéralisée que nous connaissons aujourd'hui. Mais ça existe maintenant. Ils ont des représentants au Parlement espagnol, ils ont des représentants même au sein du Parlement européen. Et les Corses sont même aussi représentants au Parlement européen. Mais le système politique et administratif français est encore très imperméable à ce genre de choses. Et il ne l'accepte que petit à petit. Il faudra peut-être une nouvelle génération de fonctionnaires, et encore des fonctionnaires sont nourris dans le sérail et se nourrissent de leur propre tradition. Mais je crois qu'on n'y échappera pas, et c'est un espoir pour nous. Cette autonomie bretonne que nous demandons s'imposera petit à petit, naturellement si nous combattons pour l'avoir, mais aussi parce que, à l'heure actuelle, au sein des sphères supérieures de l'Europe, il y a un préjugé favorable à ce genre d'administration et de politique. Non seulement, donc, actuellement, les grands États de la Communauté européenne ont un système fédéral ou préfédéral, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, mais les petits États, même comme la Belgique, viennent de se diviser pratiquement en deux États. Il y a une administration et un État flamand, il y a une administration et un État wallon. Bien, ce système-là, évidemment, qui fonctionne, il fonctionne tellement bien qu'on se demande qu'est-ce qu'on pourra faire pour empêcher les Allemands de devenir trop puissants. Ce système-là peut aussi s'appliquer chez nous et je crois que c'est une chose qui ne peut pas manquer d'arriver à condition toujours que nous nous battions pour cela. Alors, je crois que j'ai un peu synthétisé quand même. Il y a combien de temps je parle là, je ne sais plus.
Encore pas, ils ont 10 minutes. J'ai 10 minutes.
Je crois que j'ai quand même synthétisé, si vous voulez, un espèce de raccourci quand même de ma carrière personnelle liée à ces problèmes qui m'ont toujours préoccupé, pour lesquels je me suis toujours battu. Évidemment, certains de mes amis ont dit « Ah ben oui, Fouret, tu comprends, tu aurais pu faire une carrière, une très bonne, très belle carrière, dans l'administration, etc. » Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Enfin, il faut savoir si dans la vie, il y a seule une réussite conformiste, si vous voulez, qui soit souhaitable. Il faut penser aussi que la vie est faite quand même pour essayer de s'occuper de la communauté dont on fait partie et pour essayer d'améliorer son sort, son destin, sa destinée, ses aspirations. Cette défense des valeurs bretonnes me paraît toujours indispensable car au fond, ces valeurs bretonnes rejoignent des valeurs universelles qui sont justement celles de la liberté des peuples et la nécessité de compléter les droits individuels de l'homme et des citoyens par des droits collectifs qui reconnaissent la réalité de base de notre continent qui est celle des peuples et des nations qui en forment la base et qui seront quand même l'espoir de cette construction politique. C'est dire que le combat n'est pas terminé et que je ne le terminerai pas moi-même, mais que j'espère que d'autres pourront le continuer. J'ai souvent parlé de ces problèmes-là à mes amis irlandais, car l'Irlande est aussi un petit pays, heureusement, qui est également très centralisé. L'Irlande est centralisée, mais comme elle n'a que 5 millions d'habitants au maximum, son inconvénient n'est pas tellement sensible. Que l'Islande, qui compte 200 000 habitants, ou 250 000, soit centralisée, elle est à la mesure d'une de nos petites régions d'Europe, d'un de nos petits peuples. C'est normal qu'elle ait une structure d'État et elle n'a pas besoin d'avoir une structure intérieure qui la différencie. Il y a encore deux États dans la communauté européenne qui ont des progrès à faire. C'est la France et la Grande-Bretagne. Ce sont les deux qui restent. Et malheureusement, il se trouve que nous autres Celtes, nous sommes dans l'un ou dans l'autre. Et ça, c'est le combat qu'il faut mener, et qu'il faut mener en commun, si possible, et en s'aidant mutuellement. Et lorsque je parle de ces problèmes-là à certains de mes amis irlandais ou d'autres peuples, ils me disent « Ah ben, vous êtes tout à fait de chez nous. » Je dis « Pourquoi ?» Parce que nous autres Irlandais, nous sommes toujours battus à contre-courant. Tous ceux qui se sont fait un nom dans la politique, dans l'histoire, dans la littérature, dans les lettres, parmi les Irlandais, sont des gens qui étaient à contre-courant. À contre-courant de leur temps, et de la pensée qui était celle dominante de leur temps. Et on m'a dit, ben, vous êtes un peu comme les saumons. Je dis, comment, comme les saumons? Je sais, je connais le saumon, bien sûr, que j'en vends moi-même, de temps en temps. Le saumon, vous savez, c'est un poisson royal qui vit dans l'océan, librement, mais qui ne peut se nourrir que dans l'océan, c'est-à-dire dans l'univers. Il ne peut se nourrir que dans l'océan. Mais il ne peut se reproduire qu'en eau douce. Il naît en eau douce, et il faut qu'il se reproduise en eau douce. Et les saumons remontent les rivières pour arriver chez eux. Ils sont toujours à contre-courant. Parce qu'il y a des tas d'obstacles à franchir. Il y a la sécheresse, quelquefois, qui tarit les rivières. Il y a quelquefois les inondations qui multiplient les cascades, qui augmentent les courants contre lesquels il faut se battre. Il faut continuer à lutter, à persévérer. Mais on finit quand même, on continue. Parce qu'on sait qu'il faut continuer. Car on veut absolument rentrer chez soi. Et c'est ça que j'ai essayé de faire. Merci.
Bon, alors nous allons pouvoir passer au débat. S'il y a des personnes qui veulent poser des questions, je demanderai à Gilles, je crois, si j'ai bonne mémoire, de venir prendre le micro baladeur, de façon à ce que les gens qui posent des questions soient entendus par tout le monde. Est-ce que tout le monde entend ?
Alors, moi, j'ai pas mal de questions à poser à M. Fouilleray. Il tâche de faire une petite sélection.
Bon, alors, parlez un peu fort parce qu'en même temps, on enregistre. Bon,
alors, d'abord, je veux savoir, est-ce que vous pouvez faire une précision sur le statut du Pays Basque actuellement en Espagne, qui est un peu un modèle parce qu'ils ont vraiment une culture très particulière et ils sont parmi ceux qui se sont battus beaucoup maintenant. Est-ce que vous pouvez donner quelques précisions en quelques mots ?
Pays Basque, c'est la seule question
Pour l'instant, il y a disons, d'autres questions qui concernent les domaines de politique français plus actuels.
Oui, Pays Basque est à l'heure actuelle un statut de communauté autonome au sein de l'Espagne. En ce sens que le Pays Basque a son propre gouvernement, son propre parlement, c'est même lui qui ramasse tous les impôts perçu au Pays Basque. Et il en reverse une partie au gouvernement central espagnol. C'est-à-dire, c'est exactement le système qu'il y avait en Bretagne sous le traité de 1532. C'était les Bretons qui ramassaient les impôts pour leurs propres besoins et ils en redonnaient une partie à la monarchie française. Il y avait toujours des marchandages un peu extraordinaires. Qui concerne le vote des impôts pour l'État français, il y avait toujours des batailles, des discussions sans fin. Enfin, le système du Pays Basque est celui-là, à l'heure actuelle. Donc, gouvernement autonome, pratiquement, l'administration espagnole n'exerçant de compétences qu'en matière de défense et d'affaires étrangères, comme c'est le cas, d'ailleurs, dans tous les régimes fédéraux.
Je crois qu'ils ont même une police avec leur propre uniforme.
Exactement. Exactement, ils ont leur propre police, avec leur propre uniforme, des bérets rouges d'ailleurs. Mais il y a quelque chose quand même qui fait que le combat des Basques n'est pas fini. Parce que il y a les provinces qui sont dirigées par ce gouvernement autonome de Euskadi, qui sont au nombre de 4, mais il y a une partie de Pays Basque, qui est la Navarre. Et la Navarre a une tradition un peu différente des autres provinces basques. C'est une terre carliste, vous savez, ils avaient pris position pour le prétendant carliste à la couronne d'Espagne. Et le nationalisme basque n'est pas aussi développé en pays navarrais que dans les autres provinces ou les autres pays du Pays Basque. Donc, il y a un parlement spécial pour la Navarre qui ne dépend pas du Pays Basque autonome. Elle est à part, hein. Donc il y a, si vous voulez, deux États basques, l'État d'Euskadi et la Navarre. Évidemment, la Navarre, il y a aussi une forte minorité de patriotes basques qui veulent le rattachement au Pays Basque autonome du reste du Pays Basque. Et puis il y a aussi le problème français. Le Pays Basque ne sera pas le Pays Basque tel que les Basques le connaissent et le pensent et le veulent, tant que le Pays Basque français restera un vague canton ou arrondissement de France. C'est en ce sens-là qu'on peut dire que le problème basque n'est pas entièrement résolu, parce que c'est un pays qui est à cheval sur la frontière politique, parce que ni les montagnes, ni les fleuves n'ont jamais été en réalité des frontières naturelles. Ce sont des frontières politiques qui ont été tracées par des États, mais c'était commode de trouver un endroit où ils pouvaient monter la garde, mettre des mitrailleuses et des champs de mines. Hein. Mais ça ne devrait pas exister dans l'Europe que nous construisons. Il est certain que la vocation normale du Pays basque français, comme d'ailleurs de la Catalogne française, est de se rejoindre à leurs frères de l'autre côté des Pyrénées. Ça, c'est une... Oui, c'est une question de sémantique, surtout. Fédéralisme, c'est une doctrine qui est à la fois administrative et politique. Autonomisme, c'est aussi une doctrine de décentralisation de pouvoir et de pouvoir de décision. Le fédéralisme, c'est l'englobant, si vous voulez. Le fédéralisme englobe des autonomies, hein, qui sont des principes de base et qui garantissent. C'est le système qui existe dans le fédéralisme suisse. Ce sont les cantons qui sont des cantons souverains. Hein. Ce n'est pas l'État suisse qui dirige. Il ne dirige que pour certaines attributions très précises et très limitées. Mais le canton est là. Le centre du pouvoir, c'est la souveraineté, et dans les cantons, non pas dans l'État central. Et donc ce système suisse, élargi bien sûr à des unités plus vastes, est celui qui peut, pour faire le mieux, toucher du doigt la distinction entre fédéralisme, qui est l'englobant, et autonomisme, qui est l'organisation à la base. C'est complémentaire.
Personnellement, bien que n'étant pas partisan de M. Fox, je trouvais que c'était une notion intéressante. Ayant entendu un interview de Jean-Marie Le Pen à ce sujet, il s'est opposé très vigoureusement à ce statut en disant que cette notion était une notion extrêmement dangereuse. Alors, je voulais savoir, pour être de votre point de vue, comment se fait-il que le Front National, qui est partisan de l'économie de la France au sein de l'Europe et même d'une autonomie culturelle française par rapport à une certaine invasion, est-il opposé à un statut régional tel qu'on l'entend?
Bien sûr, c'est M. Le Pen, plus que moi, qui pourrait vous répondre. Hein. Mais il est incontestable que, malheureusement, tous les partis français, quels qu'ils soient, même ceux qui ne le disent pas, sont partisans, et Le Pen ne fait pas exception, sont partisans du système actuel de centralisation politique. Et la décentralisation, ça va très bien si ça ne dépasse pas certaines limites. Si c'est des choses qui ne sont pas très sérieuses, ça va. Mais si ça touche à l'autorité de l'État, aux finances de l'État, ça ne marche plus, quoi. Là, donc, il y a le mouvement Front National, c'est un Front National français. Voilà. C'est sa politique, c'est sa position. C'est à lui de décider quelle est sa politique, mais je crois que, bien sûr, s'il est partisan du maintien de l'indépendance, d'une certaine indépendance de la France dans l'Europe, logiquement, un Breton comme Le Pen, puis il est Breton quand même, devrait pouvoir distinguer entre ce qui est un État et ce qui est une nation. Bon, ça ne se confond pas toujours. Il peut y avoir plusieurs nations dans l'État, comme il peut y avoir plusieurs États qui divisent une nation. Si vous prenez la nation dans le sens de communauté ethnique, populaire, linguistique, il est certain que l'ethnie allemande était divisée jusqu'à cet an dernier en trois États. Maintenant, il n'y en a plus que deux. Mais elle n'a pas oublié que, malgré tout, dans cet État qui aurait été trop vaste et trop puissant et qui aurait mis en danger la paix de l'ensemble, il a été divisé à cause des raisons politiques, administratives et financières en différents États. Il y aurait eu un danger énorme à ce que l'Allemagne, la République démocratique, l'Allemagne de l'Est, se rattachât à l'Allemagne fédérale sans abandonner son statut de République centraliste, parce que c'était une République centraliste, surtout sous l'égide du Parti communiste. Mais sagement, l'Europe de l'Est, l'Allemagne de l'Est, s'est transformée en 5 Länder. Donc ce n'est pas un État monolithique qui s'est rattaché à une fédération, ce sont deux fédérations qui se sont concentrées. La souveraineté en Allemagne est exercée par les Länder, et les Länder de l'Allemagne de l'Est ont pris petit à petit place parmi ceux de l'Allemagne de l'Ouest. Ça s'est fait sans douleur à cause de cela. Voilà la position. Donc, une division de la souveraineté est une nécessité dans une Europe qui doit être équilibrée. On constate que les fédérations qui durent sont celles où les unités de base ne sont pas trop importantes, où elles sont à peu près égales en puissance, en ressources industrielles, économiques, financières, etc. Il n'est pas bon, une fédération ne dure pas s'il y a un membre très vaste, très grand, très puissant, et de petits à côté. Le grand a toujours la tentation d'avaler les petits, c'est dans la nature. Bon, et ben, c'est la même chose en matière politique. Et personnellement, je pense qu'il y a, si vous voulez, la politique n'échappe pas à certaines lois fondamentales qui sont celles de l'équilibre. La vie est faite d'équilibre. Et s'il n'y a pas cet équilibre, s'il est rompu au profit d'une des parties, eh bien c'est un cancer. L'équilibre du corps est rompu par le cancer parce que il prend des proportions telles qu'il absorbe le reste. Eh bien on doit éviter cela aussi en politique. Il y a un équilibre physique de la politique qui correspond plus ou moins à l'équilibre de l'air, de l'eau, de la nature. Moi, je pense très, très fermement qu'il y a cela, ça existe, cet équilibre. Et qu'on ne peut rien faire sans équilibre. Et ce sont les petites parties, justement la multiplication des petites parties, qui arrivent à finir par faire l'équilibre de l'ensemble. Parce qu'une partie ne devient pas trop puissante, parce qu'il y a toujours une autre qui s'oppose à ce qu'elle grandisse trop vite et aux dépens des autres. C'est la même chose en politique. Si l'on réfléchit bien, et si l'on sort un peu du mythe de la puissance de l'État, de la grandeur de l'État, dont on nous ressasse encore le son, et dont M. Le Pen, malheureusement, est encore inspiré dans une certaine mesure. On ne doit pas avoir peur de la liberté donnée à des parties de l'ensemble. Et c'est là où je crois est l'erreur fondamentale. Deux partis, c'est pas le seul en Europe, hein, comme le Front National.
Bien, monsieur.
On va parler de Le Pen. attache en moins. Et l'auberge est moins bretonne. Pourquoi? Parce qu'on nous disait à mon boulot, à l'époque, ah, t'es breton, ah, t'es pour la peine, t'as ton chien. Alors voilà, il m'a dit ça. Vincent, pour la peine, je dis, il m'a dit, en on a menti, que je retrouverai par le mois de Bretagne, ou une assemblée bretonne. Donc, pas venir pour la peine pour l'instant. Pour la peine, c'est en l'air breton, comme était du Véclin. L'autre jour, j'étais à l'invitation des paysans à Paris. J'étais tombé par une j'ai dit, je ne connaissais pas. J'ai dit, Savoyard. Il n'y avait plus de drapeau Savoyard, de drapeau breton à l'invitation. J'étais très surpris.
C'est tout.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur là-bas?
Moi, c'est vraiment une question. Je vais vous demander si vous pourriez nous faire une sorte de rapide panorama actuellement de ce qui peut exister en Bretagne en tant que mouvement nationaliste, fédéraliste, autonomiste, et un peu un bilan de tout ça. Justement, qu'est-ce qu'il y a actuellement, vers quelle ère se dirige le nationalisme breton? Voilà.
Oui, c'est une question qui, évidemment, pourrait nécessiter un très long développement, mais. Résumons, si vous voulez. Hein. Il y a malheureusement un émiettement considérable des partis politiques bretons. Et je vous ai évoqué tout à l'heure les forces de dissolution ou de désintégration qui ont joué après justement la création du MOB et les différentes formations qui sont nées de cette dissolution ou désintégration. Il y a eu l'introduction en Bretagne d'idéologie, qui étaient les idéologies françaises, pardon, de droite et de gauche. Bon, alors, la scission de l'UDB, qui a été la première, qui est née du MOM, mais qui était la première scission, s'est focalisée, si vous voulez, sur la gauche. Et s'est mise d'abord à faire des alliances avec des partis français comme le Parti communiste et le Parti socialiste, et même l'extrême gauche communiste et socialiste. Bon, il y a ça, qui est donc un parti autonomiste, qui se dit autonomiste, qui ne se dit pas nationaliste. Il se dit autonomiste et il est partisan du fédéralisme, dans l'absolu, dans l'ensemble. C'est donc l'Union démocratique bretonne. L'autre parti, c'est le POB, le Parti pour l'organisation d'une Bretagne libre, qui, lui, est nationaliste et fédéraliste. Nationaliste breton et fédéraliste européen. Et il y a ensuite une aile plus extrémiste du combat nationaliste, qui est MGAN, le combat breton, qui est assez proche, si vous voulez, de l'action, de l'activisme. La plupart de ces militants sont ceux qui s'occupent de Sturm-Rosenblick, c'est-à-dire des organisations qui n'hésitent pas à avoir recours à une certaine action directe ou extra-légale, si vous voulez, en démolissant ou en peinturant les panneaux de signalisation routière, des choses de ce genre-là qui se multiplient bien sûr et qui aboutissent. Il y a donc ces trois parties qui sont les composantes principales du mouvement politique breton à l'heure actuelle. Il y a aussi une petite frange indépendantiste qui est le mouvement pour l'indépendance bretonne, qui est l'ancien mouvement pour l'insoumission bretonne, qui est né surtout de militants nationalistes qui se sont opposés justement à l'État français en disant que ils ne voulaient pas faire de service militaire en France, parce que le traité de 1532 prévoyait que les Bretons ne devaient pas faire de service militaire en dehors de la Bretagne. Alors au début, ça faisait une grande publicité, parce qu'on les faisait passer en jugement. Hein? Donc il y avait des rapports dans les journaux, il y avait des manifestations, des choses de ce genre. Et ils étaient condamnés en général à la prison, hein, un peu de prison. Un an ou deux, il y a le MAT, qui a été le premier qui a adopté cette politique, a fait 2 ans de prison. Bon. Mais maintenant, l'État français, qui n'a plus besoin tellement, avec justement le progrès de l'Europe de tant de soldats qu'il n'en avait auparavant. Ils n'aiment pas ça. Alors, au lieu de faire passer les indépendantistes bretons en jugement, enfin les insoumis bretons en jugement, on les réforme. C'est-à-dire qu'on considère que le fait de refuser de faire le service militaire pour la France parce qu'on n'est pas français, c'est un signe de désordre mental. Hein? Alors c'est un moyen très pratique, si on ne veut pas faire le service militaire, de se déclarer indépendantiste breton. Je vous donne le tuyau, si ça peut vous intéresser. À l'heure actuelle, on ne les poursuit plus, mais on les réforme. Alors ça, c'est un autre, donc une petite branche, encore une autre branche du parti du mouvement nationaliste breton. Et il y a aussi de création récente, alors, un mouvement dans l'ensemble plus modéré, mais qui est fait peut-être de, surtout aussi de croix d'anciens dissidents de partis politiques bretons, qui est la Convention régionale de Bretagne, qui, elle, ne se dit pas nationaliste, puisque son nom porte Convention régionale. Mais naturellement, il faut l'inclure dans la mouvance des partis autonomistes et régionalistes bretons. Alors, ces différents partis, à l'heure actuelle, sont aperçus que, en ce qui concernait les résultats pratiques, eh bien, évidemment, cette division était néfaste, parce qu'on n'aboutissait à rien. Alors, à l'heure actuelle, je peux vous dire qu'il y a actuellement des consultations qui se poursuivent entre les différents partis autonomistes, nationalistes bretons, pour essayer de présenter une sorte de front commun aux prochaines élections régionales. C'est là où en est la question. Je ne dis pas que ça réussira ou que ça ne réussira pas. Je ne dis pas que tout le monde y rentrera dans cette union ou n'y rentrera pas. C'est difficile encore de le dire, mais enfin, c'est là où se présente actuellement l'état de la question, si vous voulez. Nous avons tout un arc-en-ciel de mouvements politiques en Bretagne, trop nombreux, bien entendu, pour avoir une action efficace, et l'action efficace commence évidemment par un essai de, au moins de coordination et de concertation entre ces différents mouvements.
Donc, en fait, pour les prochaines